Oxyform. Oxyform. Tous les mercredis à 17h sur Esprit Occitanie. Sur Esprit Occitanie. Avec Romain Galtier.
Pour cette cinquième émission, nous allons parler du jujitsu japonais. De ses valeurs, mais nous allons aussi aborder le bien-être souvent retrouvé dans les disciplines japonaises. Les arts martiaux sont bénéfiques pour les performances physiques et pour le mental. Ils permettent à tout pratiquant d'améliorer les capacités cardiovasculaires, l'endurance et la respiration, de favoriser le renforcement musculaire et osseux, de développer la souplesse, les réflexes et la coordination, d'apaiser les tensions et d'apprendre la discipline et la maîtrise de soi. Les arts martiaux sont articulés autour d'une discipline stricte et possèdent en règle générale un système de grades, mais il y a un risque de blessures, coups, chutes, torsions. Le corps peut être sujet à des blessures plus ou moins importantes. Un certificat médical est nécessaire pour la pratique des arts martiaux. Il existe différents arts martiaux. L'aïkido, le judo, le karaté, le jujitsu, le tai chi, le kendo. Toutes ces activités physiques reposent sur des techniques de combat à main nue ou avec une arme. Bâton, le sabre, l'épée. Où la connaissance et le contrôle de soi prennent une place importante. De l'Inde à la Chine, la forme primitive des arts martiaux se situe entre le 3e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Les arts martiaux furent créés dans le besoin de se défendre face aux agressions, jusqu'à la conquête des civilisations initiées par les grands guerriers. Les arts martiaux se diffusèrent progressivement en s'imprégnant au passage de l'enseignement bouddhiste et de la philosophie. Plus riches et plus complets, les différentes formes d'arts martiaux se propageront sous forme d'idéologie dans le reste de l'Asie, Japon, Corée. Ce n'est qu'à partir du 20e siècle que l'Occident découvre les arts martiaux. Mais le Japon, c'est aussi une culture du zen. Nous avons relevé 4 pratiques culturelles et apaisantes. En premier lieu, j'ai choisi le bain japonais, surnommé Shinto. C'est une pratique spirituelle destinée à purifier le corps et l'esprit. Ici, il n'est pas question d'hygiène, mais uniquement de bien-être. Ces bains se réalisent avec une eau chauffée à 42 degrés, dans une baignoire en bois. Dans la coutume, on y ajoute diverses huiles essentielles, fleurs et sel de bain pour éliminer les toxines, détendre les muscles et purifier l'esprit. Vous pouvez réaliser votre propre Shinto chez vous en suivant les mêmes procédés. Faites-vous couler un bain chaud, ajoutez-y huile essentielle et pétales de fleurs dans une ambiance tamisée. Bougie, encens, je vous laisse rester imaginatif. Ensuite, pour la deuxième pratique, j'ai choisi le Shiatsu. Le Shiatsu est un art qui permet d'éveiller les énergies du corps. Il se pratique par une pression des mains ou des doigts sur des zones précises du corps. Inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, le Shiatsu interviendrait sur la physionomie, le physique ou le psychisme. En troisième exemple, j'ai choisi le Sha no Yu, pardonnez mon accent japonais, aussi appelé la cérémonie du thé, qui consiste à préparer du thé matcha. L'élaboration ainsi que la dégustation de ce thé se fait dans le calme et la méditation, afin que le corps et l'esprit profitent des qualités curatives du matcha. Vous pouvez le faire chez vous et même vous créer un petit coin zen pour que l'atmosphère soit propice à la dégustation. En dernier lieu, c'est une pratique sportive nommée le Raijo Taiso. Le Raijo Taiso est une gym matinale qui s'est répandue au Japon en 1928. La pratique a pour but de renforcer et d'étirer les muscles, ainsi que d'améliorer l'équilibre. Elle se déroule le matin en extérieur, généralement dans des jardins publics, ce qui permet à ceux qui la pratiquent de profiter de la lumière naturelle dès le début de journée. En Occident, d'ailleurs, on a le concept du miracle morning, se lever plus tôt pour instaurer une routine matinale, lire, méditer, faire du sport avant d'entamer sa journée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir sur Esprit Occitanie de recevoir un professeur de Jiu-Jitsu, mais aussi un coach sportif et technicien de bien-être. Notre invité va nous expliquer son parcours et nous parler de ses disciplines. Bonjour Jean-Louis Mourlan.
Bonjour Romain, bonjour l'équipe.
Alors, vous êtes natif de Toulouse ?
Tout à fait. Je suis toulousain de naissance hein, et j'ai pratiqué des sports de combat depuis l'âge de 14 ans. Et voilà, donc je suis maintenant diplômé d'État pour pouvoir enseigner le judo jiu-jitsu. Et je forme les gens aussi dans tout ce qui est self-défense et technique de bien-être aussi, puisque je fais de la formation également. Et dans tout ce qui est coaching, je prends des gens, je fais du coaching à domicile et en entreprise.
Et vous avez fait toutes vos études à Toulouse ?
Toutes mes études à Toulouse, oui.
Et des formations dans des salles de formation en parallèle ?
Alors, j'ai fait en formation, moi j'ai fait, je suis technicien de force de vente de base, donc j'ai suivi un parcours normal au niveau de l'école jusqu'au bac. Après, j'ai fait une formation en 2 ans de technicien de force de vente et après, j'ai commencé comme commercial. Et en fait, je suis tombé dans le sport par hasard puisque la boîte pour laquelle je travaillais a fait faillite et je suis parti en formation comme je pratiquais les sports de combat, le judo et le jiu-jitsu, ben mon prof m'a dit peut-être pourquoi tu passerais pas un diplôme d'État. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai passé mon diplôme d'État au Crêpes à Toulouse.
Et vous avez quel âge aujourd'hui ?
J'ai 49 ans.
Donc depuis 14 ans, ça fait un sacré moment que vous pratiquez les arts martiaux en particulier.
Ouais, voilà.
Et quelle est la différence entre un art martial et un sport de combat ?
Alors, l'art martial, il y a toute une philosophie, toute une pratique, alors que le sport de combat, lui, c'est un arbitre, deux adversaires et des règles bien particulières en fonction du sport de combat qu'on va faire.
Et vous êtes ou vous étiez compétiteur ?
Alors, j'ai été compétiteur, pas très longtemps, parce que j'ai pris la voie de l'enseignement assez rapidement. Et donc, par contre, j'ai formé des compétiteurs. J'ai formé des élèves qui ont été jusqu'au championnat du monde en jiu-jitsu, combat.
Ah oui, c'est un sacré palmarès. Vous avez eu des mentors dans votre formation ?
Oui, j'ai eu... j'ai suivi à Blagnac, j'avais un enseignant qui était Maître Loumagne, 6e Dan. Et après, quand j'étais au Crêpes, j'avais Jacques Seguin, qui est connu dans le milieu du judo, qui est 7e Dan, voilà.
Pour vous, la transmission des valeurs, j'imagine, si vous êtes tourné vers l'enseignement, c'est quelque chose de fort et d'important.
Alors, pour moi, c'est primordial. Donc, surtout, transmettre aux jeunes. Moi, je donne des cours aux enfants à partir de 4 ans. Alors ça, c'est spécifique en judo, hein, pas en jiu-jitsu, mais en judo.
En judo, à partir de 4 ans, on peut mettre ses enfants dans un club.
Tout à fait.
Il n'y a pas de risque.
Non, c'est normalement, les gens sont formés pour apprendre aux enfants à être latéralisés, à savoir travailler en équipe, travailler individuellement, se concentrer, se canaliser. Voilà. C'est surtout, les enseignants nous envoient des enfants, surtout pour qu'on les canalise. À l'heure actuelle.
Les enfants sont turbulents dans un cours d'arts martiaux, c'est dur ?
Non, parce que souvent, moi, ce qu'on me dit, c'est que les parents ne reconnaissent pas leur enfant quand ils sont sur le tapis, en fait. Alors, il y a l'effet de la tenue, il y a l'effet de la ceinture, il y a l'effet du fait qu'on soit dans un dojo. Mais par contre, les parents nous amènent les enfants pour qu'ils soient canalisés, parce qu'ils sont plus ou moins turbulents à l'école.
Il y a une forme d'autorité de l'enseignant sur...
Autorité, rigueur, voilà. Oui, je pense que c'est des choses que recherchent les parents et les enfants à l'heure actuelle. Quoi,
pour avoir vous-même, vous êtes père de famille.
Tout à fait.
Vos enfants ont pratiqué aussi les...
Alors moi, j'ai ma fille qui a 12 ans qui pratique. Elle pratique le judo et le jiu-jitsu. Et j'ai la dernière qui a 4 mois. Pour le moment, non, mais ça ne va pas tarder.
Oui, donc ça se transmet de famille.
Oui, c'est ça.
Vos parents faisaient du jiu-jitsu également ?
Alors, non. Moi, j'ai commencé, mon père est venu après. Donc, j'ai été le prof de mon père, en fait.
C'est intéressant.
Oui, c'est rigolo, ça change.
Donc, c'est vous qui avez... Enfin, c'est quand même un partage, mais c'est vous qui avez transmis...
C'est ça, tout à fait.
Comme quoi, il n'y a pas de normes.
C'est ça, tout à fait.
Vous avez un vécu personnel à nous faire partager de vos formations ?
Alors oui, moi je suis parti donc dans la formation 96 au Crêpes à Toulouse, que j'ai suivi pendant une année. Donc à la sortie de ça, étant diplômé, je suis parti dans les clubs de l'agglomération toulousaine pour enseigner le jiu-jitsu. Au départ, on m'avait plus étiqueté enseignant de jiu-jitsu. Et donc j'ai été dans différents clubs. Si je peux les citer ou...
Ouais. Oui, vous pouvez les citer, oui.
Donc, il y a Dojo Tonic, qui m'a donné la chance au départ. Escal 15, là où j'enseignais aussi avec des enfants en judo. Le Toa, qui était mon club de formation au départ. Et après, petit à petit, je suis parti, j'ai volé de mes propres ailes. Je suis parti de Blagnac, du club de Blagnac, pour y revenir à l'heure actuelle, en tant que directeur technique, en fait, de ce club.
Alors, directeur technique, ça consiste en quoi ?
Alors, directeur technique, ça a deux étiquettes. C'est-à-dire que je suis sur le tapis pour enseigner, mais également je suis à côté pour aiguiller les autres professeurs. Donc j'ai d'autres enseignants avec moi. Donc on décide de la politique sportive qu'on va mettre en place dans le club, ce qu'on va faire, les déplacements qu'on va faire, les compétitions, la planification annuelle, plus voilà.
Mais au niveau de vos formations, elles se déroulent en trois axes, parce que vous êtes à la fois, vous avez un brevet d'état de professeur de judo jiu-jitsu, vous êtes aussi préparateur physique.
Tout à fait.
Donc ce n'est pas le même diplôme.
Non.
Et vous êtes aussi technicien bien-être.
Tout à fait.
Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui. Alors, historiquement parlant, j'étais dans un club de judo où mes élèves se sont mis à faire de la muscu. Et donc, ils ont commencé à soulever des barres, pour soulever des barres et pour être, je suppose, pour être beau sur la plage l'été.
Oui, pour exhiber les pectoraux.
Exactement. Et malheureusement, quand ils se retrouvaient sur le tapis, ils ne faisaient plus les mêmes techniques qu'ils faisaient avant, puisqu'ils étaient bloqués par la masse musculaire. Donc j'ai décidé de passer un diplôme de préparateur physique, en fait, pour pouvoir leur faire les programmes de manière à ce qu'ils puissent faire de la muscu, mais que ça soit bénéfique aussi pour l'activité judo.
De manière à ce qu'ils aient une esthétique qui leur, convienne, mais une fonctionnalité du mouvement qui soit adaptée à la pratique de la discipline.
Tout à fait, voilà. Et donc, voilà, suite à ça, ça s'est très bien passé. Je me suis rendu compte que je pouvais aussi faire du coaching à domicile. Donc, voilà, ça m'a permis de rajouter une corde à mon arc. Et donc là, maintenant, après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de concurrence, en fait, dans le milieu du coaching. Et donc, j'ai essayé de sortir un peu du lot en faisant, en proposant des activités différentes, c'est-à-dire mélanger le coaching avec le massage. Et donc, quand je vais chez les gens, j'y vais avec ma tenue de sport et ma table de massage. Comme ça, je propose aux gens une activité, c'est-à-dire 45 minutes d'activité sportive et de renforcement musculaire ou d'étirement. Et après, derrière, un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure en fonction de ce qu'ils prennent de massage. Voilà.
Donc, vous avez une autre corde à votre arc pendant que vous allez faire
Tout
une prestation de coaching.
C'est ça.
Il faut à la fois leur présenter une prestation de bien-être, donc de massage,
supplémentaire,
de relaxation.
Tout à fait. Alors, le massage, nous, on n'est pas un massage thérapeutique, puisque ça, c'est dédié au métier de la médecine, en fait. Kiné, masseur, ostéo et chiro. Nous, on est plutôt en prévention. Donc, on va travailler plus sur le stress, plus sur les maux de dos, plus. Mais c'est plus de la prévention que de la thérapie.
Et vous-même, pendant vos formations et pendant votre parcours de sportif, vous avez eu des blessures, des douleurs dues au sport de combat ?
Oui, moi j'ai eu deux ligamentoplasties aux deux genoux, donc c'est les ligaments qui ont été cassés, et j'ai eu un tendon d'Achille. Voilà, donc ça c'est les blessures, comme on dit, trop de sport tue le sport, c'est souvent les choses qu'on dit, mais c'est surtout, faut penser à la récupération, faut penser à une bonne alimentation, et souvent quand on est sportif, on met ça de côté pour pouvoir pratiquer encore plus, et la fatigue aidant, le surentraînement aidant, on se blesse.
Et ça vaut pour tous les sports, ce n'est pas les sports de combat, bien qu'il y ait une forme de violence, par exemple dans la boxe, dans les arts martiaux. Je pense que tout sportif, quel qu'il soit, s'il ne respecte pas sa récupération, peut être amené à une blessure.
Tout à fait.
Et il n'y a pas plus de taux de blessure dans les arts martiaux que dans d'autres sports.
Je dirais qu'il y en a peut-être moins, si on peut regarder. Alors, la gravité peut être un peu plus importante. Donc, les blessures, ça peut être des genoux, ça peut être des épaules dans notre activité, suite à des chocs, suite à des chutes un peu violentes.
Des clavicules.
Mais disons que notre corps est quand même préparé à ça. À la différence d'un autre sport qui n'est pas préparé à subir des chocs, lorsque le choc arrive, souvent ça fait beaucoup plus de dégâts que si un corps est préparé. On compare un footballeur et un rugbyman. Le rugbyman est habitué au contact, le footballeur un peu moins, il se blesse des fois beaucoup plus, les footballeurs, que des rugbymen.
Et vous êtes quel dan aujourd'hui ?
Alors moi je suis 3 et je suis en train de travailler pour le 4e dan.
D'accord. Et les dan, en fait, c'est la même fédération, judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées.
Tout à fait.
Donc, du coup, c'est quand vous passez un grade, vous le passez dans toutes ces disciplines ou c'est...
Alors non, on le passe dans la discipline où on est, c'est-à-dire judo, jiu-jitsu. Moi, quand on va passer de grade, quand on augmente dans ces grades, c'est dans cette discipline-là. Le kendo, c'est quand même une discipline associée, mais c'est à part. Il faut une licence à part. Voilà.
Mais le judo et le jiu-jitsu sont liés.
Les judo et le jiu-jitsu sont liés, encore plus à l'heure actuelle, puisque depuis janvier là, cette année, dans la nomenclature, le judo et le jiu-jitsu travaillent ensemble.
Et le judo et le jiu-jitsu sont tous les deux fondés par Jigoro Kano ?
Alors, à l'origine, c'est le jiu-jitsu qui existait, oui. Puisque les samouraïs se battaient sur les champs de bataille une fois qu'ils n'avaient plus de sabre à main nue. Donc, ils avaient l'habitude de finir de se bagarrer à main nue face à des hommes armés, un ou deux ou plusieurs. Donc, ça, c'est un peu une pratique du jiu-jitsu. Et donc, quand l'ère féodale est tombé, que l'empereur a décidé que les samouraïs n'avaient plus lieu d'exister. Tous ces samouraïs-là se sont réunis pour mettre en place et garder une certaine éthique, certaines valeurs qu'ils avaient dans leur pratique en tant que samouraïs.
C'est l'ère d'Edo dont vous parlez là.
Pardon ?
C'est l'ère d'Edo.
Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont décidé de mettre en place différents sports. Donc, il y a eu des sports de frappe, des sports de lutte. Donc la lutte, c'est plus le judo, la frappe, c'est plus le karaté. Et après, les disciplines avec les armes, le yai, quand on travaille avec le sabre, et ainsi de suite.
Et vos formations, ça a duré combien de temps à peu près pour la formation, à la fois le PE, votre formation? Alors, de...
En fait, ça ne s'arrête jamais. On est tout le temps en train de se former. Moi, je continue de me former pendant que je forme mes élèves et d'autres enseignants. C'est un cercle sans fin, quoi. On est tout le temps en train de se former pour pouvoir transmettre et transmettre le mieux possible.
Nous allons effectuer maintenant une pause musicale avec un morceau proposé par Jean-Louis qui se nomme...
Donc j'ai choisi Ayam et c'est le samouraï.
Qu'est-ce que t'as à me regarder ?
Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge, entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération. En guerre permanente avec les autres, les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni, où tu te crois mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'érisse, les dents grincent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal, la moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa merde, merde. Chacun sa voix, sa vie, devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un kiaï, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté et la loi. Tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté et la loi. Tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby card grandit entre le fer et la soie. La soie, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui, un billet pour le manège. Gratuit, verrouillé, la nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule quête, les pépettes, quand t'as les sous, tu drives une 720. Et tu touches des seins en lutte, souvent on bute sur le pied du voisin. Espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. L'essence toujours éveillée, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verset pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras. On n'est pas né pour ça, même vaincu, on se jettera dans la bataille pour l'honneur comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté et la loi. Tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté et la loi. Tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï.
Nous sommes de retour avec Jean-Louis Mourlan. Pourquoi ce morceau que vous inspire-t-il ?
Alors moi déjà, j'aime IAM donc, depuis des années. Et puis j'aime leur phrasé, ils sont assez proches des gens de tous les jours, du peuple. Et j'aime beaucoup ce qu'ils dégagent en fait. Et ça, le samouraï, c'est un petit clin d'œil à mon activité.
Et c'est vrai que ce groupe, on voit qu'il y a eu une influence au niveau de la philosophie orientale et de toute cette discipline-là. On voit qu'il y a eu une influence rien que dans leur sonorité.
Alors, dans la sonorité, et puis je pense qu'ils ont eu d'autres influences. Hein. Je pense que sur Marseille, bon, il y a plusieurs ethnies, donc je pense que ils jouent là-dessus et puis ils le font bien, surtout. Donc voilà.
Et pour en revenir dans votre métier, en quoi consiste le métier de professeur de jiu-jitsu ?
Alors, ça consiste à former des élèves, donc de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire, et pour qu'ils puissent préparer ce grade-là. Je vais déjà un peu expliquer ce que c'est que le jiu-jitsu. Donc, c'est un sport où on utilise tous les membres du corps pour pouvoir frapper, en fait. Que ça soit les poings, les coudes, les genoux, les pieds. C'est un travail où on va se battre contre quelqu'un qui va venir vous saisir, vous mettre un coup. Alors c'est un mélange d'aïkido, de judo et de karaté.
Vous avez le droit aux étranglements, aux clés de bras, aux clés de jambes ?
Oui, tout à fait. Donc après, quand on travaille au sol, on peut faire des clés de poignet, des clés de coude, des clés d'épaule, des clés de hanche, des clés de genou, des clés de cheville. Voilà. La seule chose qu'on n'a pas le droit, c'est les clés au niveau de la colonne vertébrale, du rachis. On travaille aussi sur des clés de doigts dans le jiu-jitsu traditionnel. Parce que moi, je fais la différence entre le jiu-jitsu traditionnel et le jiu-jitsu combat. Qui est une discipline un peu plus sportive qui amène les jeunes ou les pratiquants jusqu'aux Jeux mondiaux. Donc il y a les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe, il y a les championnats de France par rapport à ça. Ce week-end, j'étais au championnat de France à Mont-de-Marsan. J'avais deux élèves, deux jeunes qui commençaient. Donc c'était une première expérience pour eux.
Et vous avez des partenaires ?
Alors, on se bat avec des partenaires, oui.
Oui ?
Oui, on se bat contre un, deux, trois adversaires.
Donc ça peut arriver qu'en jiu-jitsu, on se retrouve face à trois adversaires
Alors, dans la partie traditionnelle, dans la partie sportive et combat, là, c'est bien codifié, c'est un contre un, avec trois arbitres, des commissaires sportifs, et voilà. Donc,
vous avez vous-même arbitré ?
Alors, j'ai arbitré, mais je suis plus sur la chaise de coach qu'en tant qu'arbitre. Donc, moi, j'ai fait mon choix. On ne peut pas tout faire, en fait. Donc, moi, je ne préfère pas courir plusieurs lièvres à la fois. Je suis dans la formation, je suis dans le coaching quand mes élèves sont sur le tapis en train de se battre. Et je laisse la place aux arbitres qui le font bien. Et autant que,
Chacun son rôle.
Exactement.
Et la durée d'un cours, ça prend combien de temps de faire un cours de jiu-jitsu ?
Alors, moi, je fais des cours de 2 heures, en fait, parce que je me suis rendu compte que normalement, c'est des cours d'une heure et demie. Mais 1 heure et demie, c'est court. Parce que, moi, dans mon activité, dans l'activité, il y a l'échauffement, il y a le tronc de l'activité qui est la partie technique. Et souvent, on zappe un peu les étirements derrière. Et moi, j'y tiens beaucoup suite aux blessures que j'ai eues. Je pense que ces blessures-là, surtout au niveau des genoux et du tendon d'Achille, c'est très important de s'étirer après avoir fait une activité sportive, quelle qu'elle soit.
Donc c'est votre expérience et par rapport à votre vécu que vous avez adapté vos séances et que vous avez mis cette séance d'étirement justement de récupération à la fin de vos cours.
Tout à fait.
Et votre rapport avec la Ligue FFDJDA ?
Alors moi au niveau de la Ligue, j'interviens comme formateur. Je suis formateur et dans le jiu-jitsu. Donc je développe cette activité au niveau de toute l'Occitanie. C'est pour ça que je vais former des enseignants jusque dans la région de Montpellier, là-bas, puisqu'il y a les BP qui se forment là-bas. Donc moi, je tourne sur Toulouse, Béziers, parce que de Montpellier, ils viennent jusqu'à Béziers. Donc je forme ces gens-là dans la partie jiu-jitsu. et également dans la partie self-défense. Donc là, c'est là, par contre, au niveau de la self, c'est la fédération directement qui m'a chargé de développer avec d'autres collègues l'activité self-défense sur la région Occitanie et même, on va dire, le sud de la France, quoi.
Et vous êtes souvent amené à voyager par rapport à votre métier ou...
Oui, je vais dans le sud de la France, j'y vais régulièrement. Je fais, alors, de par les compétitions, donc en Jiu-Jitsu combat, les compétitions sont des tournois. Et donc, ils ne sont pas énormes. Donc oui, je vais de Marseille jusqu'à Dax et de Dax jusqu'à Orléans. Et voilà.
Et vous avez déjà eu l'occasion de faire des voyages à l'étranger, par exemple au Japon
pour... Alors, au Japon, je n'y suis pas allé. J'étais en Corée. Voilà, c'est les seuls voyages que j'ai fait pour aller côté Asie, en fait.
Et le Japon, c'est quand même une destination qui doit...
C'est un objectif pour mes 50 ans.
D'accord, donc c'est quand même très c'est proche.
Ça, c'est ça.
Et c'est parce que je pense que pour tous les pratiquants de judo et de jiu-jitsu, c'est quand même quelque chose qui leur donne vraiment envie de
oui,
découvrir.
C'est, je veux dire, c'est la base de notre
activité.
C'est la racine. Et donc, voilà, je pense que tout judoka a envie de passer au Kodokan une fois dans sa vie au moins. Donc, voilà.
Et par rapport à vos diverses activités, votre rôle de coach, de personal trainer, de formateur préparateur physique, vous êtes souvent sollicité, j'imagine, autant dans le judo que le jiu-jitsu ou que le self-défense.
Non, là, je suis plus sollicité par les. Alors, on est dans une région où il y a beaucoup d'Airbusiens, et donc ce sont les Airbusiens qui me sollicitent parce que j'enseigne à Airbus, et donc comme ils savent que je suis coach sportif et préparateur physique, souvent ils me sollicitent pour des cours particuliers pour. Récupérer la forme pour perdre du poids, pour travailler contre le stress, et voilà.
Et vous avez d'autres axes où vous travaillez en tant que préparateur physique ?
Alors moi, sur mes cours de... Alors à Blagnac, moi j'ai un cours de préparation physique spécifique dédié au sport de combat. Donc j'ai les judokas et les karatékas du club qui viennent s'entraîner.
Et pour l'aspect bien-être, vous avez aussi les Airbusiens ou quel public ?
Alors, j'ai tous les publics, puisque moi, j'ai pignon sur rue au niveau du massage. Moi, ça va des Airbusiens, des parents d'élèves, voilà, c'est beaucoup du bouche à oreille en plus. Je fais pas trop de pub par rapport à ça. Et voilà, donc... Ça tourne tranquillement et je peux peut-être en parler en avance. Là, c'est pour septembre. Je prévois de développer le massage en entreprise, donc le HAMA que je souhaite développer dans les activités pour les entreprises entre midi et deux ou le soir ou le matin. Voilà.
Donc les employés pourront prendre soin d'eux pendant le
tout à fait parce que J'aimerais que le massage rentre dans les mœurs, voilà, que ça soit pas quelque chose de luxueux, mais que ça soit quelque chose de préventif, voilà, pour le stress, pour l'obésité, pour voilà. On peut y travailler beaucoup dessus.
Et sur cet aspect bien-être, quelles sont vos prestations ?
C'est-à-dire ?
La durée d'un massage, les massages.
Si je fais le massage en entreprise, ça va de 10 minutes à 20 minutes. Donc il y a des protocoles en fait de 10 minutes, de 15 minutes et de 20 minutes. Donc là, l'avantage pour ces gens-là, c'est qu'ils ne se déshabillent pas. C'est un massage sur chaise en fait. Et donc c'est de l'acupression. Donc c'est l'ancêtre du shiatsu en fait par rapport à ça. Donc ça, voilà. Et après, j'ai un cabinet chez moi où je me déplace chez les gens avec ma table de massage. Et là, j'ai des massages qui vont entre 30 et 45 minutes, voilà, où c'est des massages avec des huiles essentielles, où c'est des massages d'acupression ou de tonification, voilà.
Et ces massages à votre cabinet, c'est le corps complet ?
Oui.
Alors que sur chaise, ça va être plus axé sur les épaules, le dos.
Tout à fait, le dos, le bras, voilà, et toute la chaîne postérieure en fait.
Parce qu'il me semble que dans le shiatsu, il y a aussi le visage. On peut masser
tout à fait
par des points d'acupression au niveau.
Tout à fait. Ouais.
Et vous pratiquez aussi le
Alors,
massage visage.
Oui, on le fait. Moi, je fais. On peut faire aussi de la réflexologie. Hein. Ça, c'est ça se fait au niveau des mains, au niveau des pieds également. Je fais ça, tout à fait. Je fais le hama, je fais le tuina. Tuina, c'est un massage chinois, lui, qui est un peu plus dynamique et qui mélange la percussion et l'acupression. Après, il y a le shiatsu et voilà.
Vous soutenez des causes ?
D'autres fonctions, c'est-à-dire au niveau... par rapport au massage,
par rapport à vos activités en général, si vous avez d'autres fonctions que personal trainer, que
non, c'est déjà pas mal. Je sens que
après,
c'est à la maison où ça coince un peu parce que on me voit pas trop, donc je soutiens pas trop de causes, donc malheureusement, je reste sur mes activités.
Oui, vous avez déjà beaucoup d'associations avec le sport et
tout à fait. La seule cause que je soutiens chaque année, c'est le Téléthon. Par contre, là oui, on fait la nuit du combat, nous, au club à Blagnac, là, au Blagnac Arts Martiaux. Là oui, où tous les gens sont invités, tous les clubs partenaires sont invités, tous les amis sont invités pour pouvoir participer et donner de leur temps et un peu d'argent pour cette cause. Voilà.
Parfait. Nous allons maintenant faire une deuxième pause musicale avec un morceau choisi par Jean-Louis qui s'appelle...
Alors là, c'est la Cosca avec d'Akhenaton, en fait.
Ma famille est cette fois séculaire, ancienne et insulaire, entourée de mystères comme le Saint-Suaire. À l'aube du troisième millénaire, encore on dit la légende des trois cavaliers espagnols qui débarquèrent au large de Trapani. Les usages d'une secte dans leur tête et leur bagage amené de Tolède. Et tout ceci n'est pas un mythe fou, l'ignores-tu? Le jour où mon sang a coulé sur un fil, je fus perdu. Je suis né en 1903 au milieu des Vendetta, dans les environs de Caltanisseta, où seul l'honneur et la famille décident. Les pans de mon école s'appelaient raquettes et homicides. J'étais un pauvre paysan gardien de latifondo pour la criminalité. Oui, la Sicile abandonne, mais quand même, comment expliquer que les cutéreux ont régi l'économie d'un pays entier? J'ai envoyé des tas de types au caveau, ainsi je fus soldat dans la puissante Cosca des Salvo. Puis j'ai loué mes services un peu plus au nord. En 22 j'étais à Bagueria dans la Conque d'Or, pour appeler à l'ordre ceux qui ne payaient rien et taxer leurs biens aux propriétaires terriens. On peut trouver ça monstrueux, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour être heureux. De décennies noires avec le désir d'envoyer au placard les membres de l'honorable société. Les hommes de ma tradition furent chassés, arrêtés et enfermés. J'ai vite décidé de m'exiler en Tunisie pour fuir la répression du préfet Cesare Mori à Tunis. Il y avait déjà beaucoup d'Italiens, donc venu sans rien, j'ai dû m'accaparer les biens. Les familles s'étaient reconstituées, les clandestins de Sicile réclamaient des peccadilles pour tuer. J'ai vécu sous mes ordres une armée, mes affaires ont prospéré jusqu'à ce que le gouvernement français eût signé mon acte d'extradition de Tunis. J'ai fui vers le Havre puis vers les États-Unis. Là-bas, en 43, j'ai lutté contre les sabotages des agents philo-nazis. On a collaboré avec le gouvernement pendant quelques années jusqu'au jour du débarquement. Ils nous ont envoyé l'ascenseur après quelques mois, en installant dans les mairies des gens de Cosa Nostra. La collusion entre mafia et partis politiques et d'état, son comble pire, c'était une logique. Ceci marqua d'une pierre blanche ainsi 50 ans d'emprise totale de la mafia sur l'Italie. fus acquitté pour un contrat par un certain magistrat. En 57 j'étais incarcéré à Luchardone. 1058 je travaillais dehors à Corleone. Les naïfs comprennent-ils qu'en un an de prison ou 10 ans de liberté on a les mêmes connexions? C'est dans ces années-là que l'économie a changé. L'honorable société s'est vite adaptée. D'abord le trafic de drogue, l'assassinat de femmes. Aujourd'hui ils vendent même des organes. Et comme pour lier tous les délits impunis, en 70 la criminalité s'est réunie. Il y avait là des types de compagnie de la Camorra et ces putains de balafres cruels de la Drangheta. De Paris, la Sacra Corona Unita, et je faisais partie des gars venus de Cosa Nostra. Peu à peu se creusait un vide entre eux, leurs objectifs et moi et mes principes. 5 mois après, j'avais tout raccroché, m'étais barré dans la montagne pour me cacher. Et voilà donc 20 ans qui sont passés. Je suis resté discret et je n'ai jamais balancé. J'ai 80 piges et des nouveaux changements politiques me font comprendre que mon âge est critique. Dehors, cette moto m'inquiète. Ce soi-disant postier porte des lettres. Ils guettent, ils ont encore moins de respect que je pensais. Peut-être des nouveaux cadres d'organisation appelés Stidée. C'est terminé, alors pourquoi ne pas en rire? Sortir cette tête qui vaut 600 000 lire. C'est dérisoire, à 10 mètres ce tapis. Une armée de guapis, tout ça afin d'éliminer un papy. Dernier mot, dernière lueur dans mes yeux. Je me suis trompé, je n'ai jamais été heureux, je dois sortir.
Sur Oxyforme avec notre invité Jean-Louis Mourlan. Alors maintenant, nous allons parler du cœur de son métier. Alors comment décrivez-vous le jiu-jitsu en tant que discipline?
Alors, le jiu-jitsu, c'est, pour moi, c'est un art martial. Donc, au départ, il n'y a pas de, comment dire, pas de compétition. Depuis, la compétition existe depuis une quinzaine d'années à peu près. Donc c'est la Fédé qui a développé ça. Mais à l'origine, c'était plus dédié aux gens qui étaient aguerris pour pouvoir apprendre à pratiquer une discipline autre que le judo. Donc on leur apprenait à savoir se défendre face à des agressions avec quelqu'un qui est armé ou non armé. Voilà.
Et pourquoi les personnes s'orientent vers les arts martiaux?
Alors, je pense que les gens s'orientent vers les arts martiaux et les sports de combat en général, avec plusieurs idées derrière la tête. Il y en a certains qui y vont pour pouvoir pratiquer et se défouler parce qu'ils ont besoin de se défouler. D'autres y vont pour justement se rassurer,
De la confiance en soi.
Ouais, pour travailler sur la confiance en soi, tout à fait. Et ensuite, d'autres, parce que c'est un sport qui les attire et qu'ils aiment tout ce qui est sport de combat. Et voilà.
C'est quand même... l'apprentissage technique doit être quand même assez long.
Alors, long, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de l'investissement qu'ils vont y mettre. En règle générale, on s'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Donc, si on suit ce rythme d'entraînement... quelqu'un qui débute ceinture blanche, au bout de 5 ans, peut prétendre à présenter une ceinture noire.
Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes tout le temps en apprentissage et il y a un adage qui dit qu'on commence, par exemple, le judo à la ceinture noire.
Ah oui, tout à fait.
C'est là qu'on découvre vraiment le sport.
Alors, voilà, c'est de la ceinture blanche à la ceinture marron, on est dans un travail pédagogique où on va apprendre la nomenclature en général. Donc, c'est une discipline qui est assez bien faite hein, parce qu'on progresse de façon progressivement sur des différentes techniques et des différentes façons de travailler qu'on apprend petit à petit. Et arrivé à la ceinture noire, quand on a fait à peu près le tour de toute l'apprentissage, là maintenant, on peut mettre en place sa propre perception du judo ou du jiu-jitsu par rapport à sa morphologie, à soi.
Donc quand on arrive au grade de premier dan, la ceinture noire, on a vu toutes les techniques du judo.
On est censé avoir vu toutes les techniques. Ouais.
Donc après c'est du perfectionnement.
Après, c'est du perfectionnement et du travail pour soi. C'est-à-dire qu'on va on est plus sur un travail générique, on va dire, jusqu'à la ceinture marron. C'est apprendre une technique, comment elle doit se décomposer, comment elle doit être faite. Et après, on va plus se l'approprier par rapport à sa morphologie, par rapport à sa façon d'être, à sa façon de se déplacer. Voilà.
Et en tant qu'enseignant, quelle est votre particularité pendant vos cours ?
Ma particularité pendant mes cours ?
Oui.
Alors, moi, j'aime que les gens prennent du plaisir sur le tatami, donc l'endroit où on pratique. À partir du moment où il y a des gens qui font la tête, moi, ça me pose un problème, ça me gêne. Donc, j'essaye de faire rigoler tout le monde et de faire en sorte que les gens puissent passer un bon moment parce que c'est un moment où on apprend et que ça demande de la rigueur, mais également, les gens doivent passer un bon moment et prennent du plaisir.
Donc, vous restez sérieux et efficace, mais dans la bonne humeur.
Tout à fait.
Vous aidez les gens à perdre du poids via le judo et le jiu-jitsu ou c'est uniquement en tant que préparateur physique ?
Alors, via le jiu-jitsu, on peut perdre du poids, mais c'est plus par rapport à la préparation physique, puisque derrière, on essaye d'y mettre. J'essaye de suivre les gens avec une certaine hygiène de vie.
Parce que le judo et le jiu-jitsu sont des disciplines où le cardio monte quand même assez vite, vu que les combats peuvent être intenses, même si ça dure 2-3 minutes.
Nous, on travaille plus dans du fractionné, en fait, parce que. Il faut être capable d'exploser, de travailler sur une courte durée avec des intensités qui vont monter très très haut. À la différence d'une autre activité qui peut être comme le footing par exemple, où on va travailler le fond et on va travailler sur un rythme qui va être assez linéaire. Quoi. Voilà.
Les valeurs japonaises des arts martiaux vous servent dans la vie de tous les jours ?
J'essaye. Oui. J'essaye, autant que faire se peut, j'essaye de respecter mon prochain, de me comporter comme un judoka sur le tatami et dans la vie. Quoi. Voilà. Respecter les gens que je peux rencontrer, c'est des règles de base en fait. Hein.
C'est plus facile de garder son sang-froid avec cet enseignement
C'est plus facile de garder son sang-froid, oui, mais... Il arrive quand même des fois où, avec la fatigue ou avec n'importe quoi, on garde un peu moins son sang-froid. Mais après, j'essaye de le tourner à la dérision de manière à ce que ça passe mieux. Quoi.
Et vous, personnellement, vous entraînez à quel rythme ?
Moi, je suis tous les soirs sur le tapis. Et personnellement, je m'entraîne une fois par semaine avec des collègues à la maison du judo. Mais autrement, sur le tapis, j'essaye de, pendant que je démontre, pendant que je corrige, j'essaye de travailler un petit peu.
Oui, parce que
je me bagarre moins qu'avant,
oui.
Sur le tapis. Je suis plus en train de tenir un chrono que me bagarrer.
Parce que là, pour vous avoir devant moi, vous êtes quand même assez physique.
Je sais pas. Peut-être.
Donc oui, à chaque fois que vous faites un cours, vous entraînez, vous aussi, vous participez. Donc,
Je participe, bon, je ne m'entraîne pas, mais je participe puisque je corrige, donc je fais chuter, donc je démontre.
Et vous combattez pendant vos cours avec les élèves ?
Non, malheureusement, je n'ai pas le temps puisque je suis là pour enseigner, donc c'est très compliqué. C'est des choses que j'arrive pas à faire, moi. Il y a des gens que je connais qui le font très bien, qui arrivent à s'entraîner eux-mêmes en même temps qu'ils donnent des cours. Mais moi, j'arrive pas. Donc, je suis enseignant ou je suis un élève.
Parce
mais
que vous êtes derrière les élèves en train de corriger les c'est postures, ça. Les mouvements, c'est donner
c'est
les
ça.
Conseils.
C'est ça, de les motiver, pas... de choisir les adversaires. Voilà. Donc, ça demande du temps et j'ai pas le temps de travailler pour moi.
Alors, on avait parlé de l'âge pour commencer le judo à partir de 4 ans, mais le jiu-jitsu, à quel âge on peut commencer ?
Alors, ça évolue régulièrement. Donc, là, à l'heure actuelle, à partir de 12 ans, c'est l'âge où on peut commencer le jiu-jitsu. Mais moi, quand je fais des stages de judo dans mon club à Blagnac, j'ai des enfants qui ont entre 9 et 10 ans et je fais quand même une découverte, une première approche de l'activité jiu-jitsu. J'adapte par rapport à leur âge, j'adapte par rapport à... Voilà, ils ne vont pas faire de clé de bras, ils ne vont pas faire de clé de jambes, ça va être plus un mélange de karaté et de judo par rapport aux techniques qu'ils savent faire que du jiu-jitsu proprement dit, mais ils touchent un peu et au moins le jour où on va leur présenter cette activité-là, ils diront « oui, je connais parce que j'ai déjà fait un peu ».
Et que représente l'enseignement pour vous ?
Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est transmettre des valeurs, transmettre un savoir-faire, un savoir-être. J'essaye de... Alors, chez les enfants, j'essaye de faire des bons citoyens. Voilà, c'est ce qui me fait plaisir.
Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant et important pour les jeunes qui n'ont pas vraiment de repères ou de
tout
cadre.
Tout à fait. Moi, j'engage ces gens-là à venir essayer les sports de combat. Alors, je prêche pas pour ma paroisse, loin de là, mais ces activités martiales sont intéressantes pour ces gens-là, que même en parlant de la boxe, en parlant de la lutte, en parlant de toutes ces activités-là, pour développer certaines valeurs et des bonnes valeurs qui peuvent après servir dans la vie de tous les jours.
Et au-delà de faire partie d'un club, de rencontrer du monde, de s'entraîner physiquement, il y a aussi un aspect philosophique et un aspect de développement personnel.
Tout à fait. Il y a même un aspect social. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, de par leur activité, n'ont pas le temps d'avoir une activité sociale. Et le fait de rentrer dans un club de sport, en même temps de travailler leur physique, ils peuvent rencontrer les gens, voir, on partage. Alors, il n'y a pas que ça dans l'activité qu'on fait. À la fin des cours, souvent, il y a des apéros parce qu'il y a des anniversaires. Il y a toute une activité à côté qu'on essaye de développer, conviviale par rapport à la rigueur qu'il y a eu avant. Il y a le côté convivial après qui est un peu la récompense derrière.
Vu qu'on reste dans l'Occitanie, c'est comme au rugby, on a la troisième mi-temps des arts martiaux.
Pareil, c'est ça.
On garde l'esprit.
C'est ça.
Et quel est cet aspect de tradition, comment se partage-t-il dans le judo et le jiu-jitsu ?
Alors déjà, au départ, il se partage, au départ de l'activité, il y a un salut qui se partage. Après, ça se partage avec la tenue. Pour nous, c'est le judogi. C'est une tenue qui est assez spécifique et donc qui rappelle un peu les pays de l'Asie, quoi.
Et vous enseignez aussi à des professeurs. C'est plus facile, ma question peut être un peu bête, d'enseigner à des débutants ou à des professeurs ?
Et c'est pas pareil. Et les deux sont plaisants. C'est-à-dire que apprendre à quelqu'un qui ne sait pas à faire quelque chose et qui à la fin de la séance a le sourire parce qu'il a réussi ne serait-ce que faire une roulade parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas fait de roulade et qu'il ne s'est pas fait mal ou qu'il tombe sans se faire mal, ça c'est déjà une bonne récompense. Et pour les enseignants qui connaissent déjà, c'est être un peu plus tatillon sur les positions, sur la saisie, sur l'attitude, sur et ça aussi c'est intéressant.
Et ça vous prend beaucoup de temps, la formation des enseignants ?
J'y suis au moins un jour par semaine, oui, uniquement pour ça.
Ah, donc c'est une activité à plein temps.
Oui, pratiquement.
Donc vous êtes formateur dans la Ligue ?
Moi, je suis formateur au sein de la Ligue Occitanie pour ce qui est Jiu-Jitsu. Et une partie des katas aussi, puisqu'on a des katas spécifiques en Jiu-Jitsu, qui s'appellent le Goshin, et je fais partie des gens qui le transmettent aux enseignants. Voilà. Et après, au niveau de la selle défense, là, c'est au niveau de la Fédé qui m'oriente vers différentes, en dehors de l'Occitanie, pour pouvoir enseigner aux enseignants et aux pratiquants également. Voilà.
Et vous nous avez parlé de kata, c'est un cérémonial. Pouvez-vous nous le décrire ?
Alors oui, un kata, c'est des techniques qui sont codifiées autant dans celui qui attaque que celui qui défend. Donc on est noté par rapport à la position, par rapport à l'équilibre, par rapport au rythme, par rapport à l'efficacité, la sincérité de l'attaque, la sincérité de la défense. Tout ça rentre en ligne de compte pour pouvoir présenter un bon kata. Voilà.
Donc comme nous l'avons dit, c'est quand même quelque chose d'important dans le côté tradition du judo, parce que j'imagine que si tout est codifié, depuis la création du judo, je pense que ce sont les mêmes gestes qui sont reproduits depuis des générations et qui viennent à nous aujourd'hui.
Alors, le Goshin a été créé beaucoup plus tard. Hein. Le Goshin, qui est un kata, a été créé dans les années 50. Mais par exemple, le Nageno Kata, qui a été créé par Jigoro Kano, qui est notre maître fondateur. Les Japonais le modifient quand même, mais l'esprit... et reste le même. Voilà.
J'imagine que l'humilité est une des valeurs principales dans cet art martial.
Il y a le respect, il y a l'humilité, il y a la politesse, on a un code moral et on essaye de la confiance en soi, il y a tout ça qu'on essaye de développer chez les pratiquants.
Parce que j'imagine que quelqu'un qui peut arriver de manière un peu hautaine, arrogante, ça doit mal passer dans un milieu quand même très codifié.
Il change de lui-même, en fait. Parce que quand on est hautain et que les autres restent cool, et voilà. Ou tu pars, ou tu changes. Voilà, je pense que ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui prenaient les élèves de haut et après, soit ils ont changé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient ridicules, soit ils sont partis parce qu'ils étaient encore plus ridicules, quoi.
Vous pratiquez d'autres activités sportives ?
Alors, je pratiquais le cheval, l'équitation, parce que j'avais un cheval à une époque. Moi, ce que j'aime, c'est les randonnées, en fait. Hein, pas rester dans un box en train de tourner, dans une carrière pour pouvoir sauter. C'est plutôt faire de la randonnée, découvrir les paysages, passer dans des endroits où, des fois, à pied, on n'y penserait peut-être pas. À cheval, des fois, on y passe. Et puis après je fais du ski puisqu'on est pas loin des Pyrénées, donc voilà.
Nous avons cette chance. Et maintenant nous allons passer à la séquence littéraire.
La minute littéraire d'Oxyform.
Alors pour le choix littéraire de l'invité, vous avez choisi quel livre ?
Alors moi j'ai choisi deux livres. En fait il y avait un livre qui est plus pour la détente. Enfin c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt des dessins. J'aime beaucoup Serre, en fait, les dessins de Serre qui me font beaucoup rire. Donc ça, c'est des petits tomes, là, en fait, qui sont assez rigolos. Et après, j'ai choisi, ça, c'est plus professionnel, c'est la pratique du massage chinois, qui est une bonne base, en fait, pour les gens quand ils veulent découvrir cette activité-là. C'est un pavé qui est assez facile à lire et en modèle de poche, on peut l'amener partout. Moi, je l'amène même en vacances et je suis tout le temps en train de le manipuler pour pouvoir garder les bases, en fait. Voilà.
C'est un livre pratique.
C'est un livre pratique, tout à fait.
Pour le conseil de lecture d'Oxyform, j'ai choisi le Traité des cinq roues de Miyamoto Musashi. Alors, c'est un livre que je classerai dans le développement personnel, mais que je trouve inclassable de par son essence. Il est atypique et plein de sagesse. L'auteur est un samouraï légendaire, invaincu après toute une vie de combat. Pour moi, c'est un bouquin qui mérite d'être lu. C'est un livre d'un personnage plein de sagesse venu d'une autre époque. On va maintenant parler courses à pied.
Les courses à venir dans la région.
Ce dimanche 8 avril 2018, vous aurez le choix entre trois courses.
En premier lieu, la course Odyssea, une course de 5 ou de 10 km en centre-ville de Toulouse. Ensuite, nous avons les Foulées Terre d'Envol à Colomiers, qui propose une course de 10 km ou un semi-marathon. C'est une course FFA, donc officielle. Et pour terminer, nous avons pour les trailers le Trail du Val. C'est un trail de 14 km en solo ou en relais, 6 km plus 8 km. Ce trail aura lieu à Villefranche-de-Lauragais.
Oxyform.
Nous remercions Jean-Louis Mourlan.
Merci.
Vous étiez sur Oxyform, une émission de Romain Galtier. Nous remercions Jean-Louis Arzac à la technique. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Oxyform ou Esprit Occitanie, ainsi que sur le site de la station ou sur www.oxyfit.fr. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.